BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. C'est la dernière de la saison, émission enregistrée à Cannes à l'occasion des 65e Lyon. L'occasion aussi de faire un bilan de cette année 2018 en termes publicitaires. On sera pour cela avec Olivier Altman de l'agence Altman Pacro, avec Tashi Baroucha qui est directeur de la création de Clear Channel, et également avec Bastien Chup, directeur marketing chez Renault. Et puis plein d'invités surprises que nous avons interrogés sur ce qu'est la pub pour eux en 2018. HebdoCom, ça commence tout de suite.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. HebdoCom sur BFM Business.
Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Alors on est ensemble pour la dernière de la saison.
Eh oui.
Et on a choisi de l'ouvrir avec finalement le même invité qui avait ouvert cette saison, Olivier Altman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur d'Altman Pacro. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année depuis la dernière fois qu'on s'est vu, cette année de pub?
Ben pour moi, c'est un peu un festival de transition. J'ai l'impression que, paradoxalement, on est en train de revenir un peu vers de la créativité. Et on abandonne un peu la techno. Et puis j'ai lu que tous les patrons des holdings étaient un peu en train de rappeler que finalement, c'était les idées qui faisaient notre fonds de commerce. Donc je trouve ça un petit peu rassurant. J'ai l'impression qu'il y a une inflexion maintenant. Il faut voir si ça se confirme dans les années à venir.
Il y avait besoin de se recentrer là.
Oui, je pense qu'il y avait besoin d'être un peu moins fasciné par la techno pour la techno et de rappeler à tout le monde qu'on fait un métier de créativité et que c'est ça la valeur ajoutée que les clients viennent chercher dans les agences.
Vous disiez justement au début de l'année que les agences se sentaient un peu dépossédées ici à Cannes du festival, entre autres par les GAFA. Est-ce que cette année, vous avez l'impression qu'elles ont un peu reconquis du terrain de ce point de vue-là?
Je dirais que les GAFA, on donne le sentiment qu'ils ont un petit peu baissé la voilure. Alors je ne sais pas si c'est pas pour éviter de nous embarrasser, mais comme on collabore aussi avec eux, ils sont moins dans une affirmation de supériorité. Et les agences ne sont pas forcément en force, mais on va dire que on sent que le festival nous a écoutés et que ils savent bien que quand même on est un très 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 gros contributeur à la réussite de cet événement quoi.
Les GAFA, c'est des rivaux ou des alliés aujourd'hui?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que selon qu'on travaille dans l'achat média sur le digital ou au contraire qu'on veut connaître avec de la data un peu plus nos consommateurs ou surtout produire des contenus qui se diffusent intelligemment, par moment c'est un peu des ennemis et par moment c'est un peu des amis. Donc il faut savoir osciller de l'un à l'autre.
Alors, comme on est à Cannes, on parle quand même un petit peu du palmarès et de ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette sélection là cette année? Il y a des choses qui vous ont vraiment frappé?
Alors, j'ai pas eu une grande claque. Moi, j'aime bien la pub It's a Tide ad qui a été finalement très vue dans le Super Bowl parce que ça reste une publicité pour une lessive à la télé, mais c'est une pub qui joue avec la pub et qui finalement permet de citer la marque plein de fois et en même temps d'être dans l'entertainment complet. Donc je trouve que c'est un peu rassurant de voir encore de grandes campagnes, je dirais un petit peu classiques. Et puis ce qui m'a marqué, c'est que finalement les marques sont un peu en train de s'approcher des associations dans leur discours RSE. Ce qui est plutôt bien parce que justement ça permet à des associations d'émerger, mais il faut se poser aussi la question de est-ce qu'elles sont encore en train de défendre leurs produits, leurs services, ou est-ce qu'elles mettent tout leur discours sur le RSE?
Est-ce que c'est le rôle des marques d'interpeller sur les changements de société?
Je dirais que ça fait partie de leur discours, mais il y a un peu une hypocrisie aussi à Cannes parce que on a un peu sorti les catégories de charity, mais si vous regardez bien toutes les campagnes primées dans les catégories classiques, ce ne sont que des grandes causes défendues par des marques. Donc moi je trouve ça
plutôt... C'est politiquement correct ou...
C'est surtout que c'est une évolution assez cohérente par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui en termes d'éthique. Je pense qu'il faut que les marques fassent très attention à ne pas avoir un discours opportuniste et s'allie pour le long terme avec des associations. Pour les associations, ça peut être aussi un peu dangereux parce que à un moment, ça veut dire que leur image est reliée à des entreprises et que les pratiques des entreprises doivent ne pas non plus dégrader l'image de ces associations. Mais j'ai l'impression qu'on va vers un peu le meilleur des deux mondes et que finalement, toutes ces causes qui changent la société, trouvent grâce au pouvoir des marques, grâce aux puissances médiatiques qu'elles ont, un écho qu'elles n'auraient jamais eu avec les faibles moyens qu'elles ont d'habitude, quoi.
Alors jusqu'à présent, on parlait toujours beaucoup d'innovation digitale, etc., de choses très pointues. J'ai l'impression que là, on est aussi revenu un petit peu à une forme de classicisme, que la techno est passée un petit peu derrière, non ?
Ben, on se lasse de tout, donc quand on commence à voir que des apps, que des innovations sans cesse, on se dit, ben, et si vous me faisiez rire un peu, est-ce qu'on pourrait être un peu ému ? Donc je pense que le format TV, même s'il passe pas nécessairement à la télé, mais le format audiovisuel est quand même le format roi pour toucher les gens. Il y a des images, du son, on peut générer de l'émotion, et ça, sur le digital, c'est quand même le format qui émerge le plus aussi.
En termes de palmarès, la place de la France cette année ?
Moi, je pense que c'est une année honorable. Je vais voir combien de prix on aura au total. Mais c'est peut-être pas les grandes années flamboyantes. Mais je pense que c'est une année où dont on n'aura pas à rougir. Comme je vous dis, ça ressemble un peu à une année de transition. Je ne sais pas s'il y a des campagnes extraordinaires, mais il y a un très bon niveau général. Il y a beaucoup d'agences qui savent très bien à faire produire des très grandes idées avec beaucoup d'exigences.
Et l'année 2019, en termes de pub, vous la voyez comment ?
Ah, ça, c'est très très dur de se projeter parce que soit en effet cette année de transition marque le début d'un vrai virage, soit ça va être un petit peu retour au basique et finalement après avoir fait amende honorable, comme je disais, on va retrouver une débauche de d'inscription, etc. J'ose espérer que on est un peu tous lassés d'être un peu trop une vache à lait pour les prix et que on va être un petit peu plus vigilant sur le nombre de catégories, le nombre d'inscriptions.
Donc a priori, on peut rester dans un certain optimisme quant à l'évolution de la pub, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à
alors,
présent.
Alors sur la pub, moi je suis très optimiste parce que c'est un métier passionnant et les gens aiment la bonne pub. Donc oui, il y a des ad bloqueurs, mais quand vous faites des campagnes comme Intermarché ou là comme on vient de faire pour 30 millions d'amis qui ont été partagés en organique 10 millions de fois en 2 jours, c'est quand même la pub, la preuve que la pub plaît quand elle touche les gens. Maintenant, il faut qu'on fasse très attention à pas les harceler et à pas les prendre pour des idiots.
Merci beaucoup Olivier Altman, cofondateur de l'agence Altman Pacro. Frédéric, merci. Qu'est-ce que la pub en 2018 ? C'est le thème de cette émission. On a posé la question à Laurent Alias, cofondateur de l'agence Josiane.
À l'heure de la tech, de la data et de l'augmentation des tuyaux, j'ai envie de dire, je pense que c'est continuer de se battre pour les idées, pour la création et essayer de faire des choses un petit peu différentes pour parler au cœur plutôt qu'à la tête.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et c'est donc Valérie Potin qui nous a rejoint à Cannes.
Valérie Potin est venue à Cannes. Bonjour. Pour nous parler de lait et de la campagne des laitiers responsables qui vous a interpellé.
Absolument, c'est cette campagne dans laquelle on a demandé aux gens de se prononcer sur les critères de choix pour choisir un produit de grande consommation. Alors ça va des légumes en passant par les produits cosmétiques ou les œufs, et on s'aperçoit dans cette pub que le seul produit sur lequel les gens sont incapables de répondre, eh bien c'est le lait. Alors du coup, Candia leur annonce une bonne nouvelle. À partir de maintenant, c'est fini, il y a une marque qui s'appelle Les Laitiers Responsables qui va leur servir un petit peu de repère. Donc ça, en soi, c'est une bonne nouvelle, sauf que, en creux, dans la foulée, Candia vient juste de nous annoncer que depuis toutes ces années où la marque est sur ce marché, elle considère elle-même qu'il n'y avait pas de vraie marque, de marque forte, capable de guider le choix d'un consommateur. C'est un aveu d'échec pour la marque, évidemment, qui a quand même été créé en 71, qui est aujourd'hui un des poids lourds du marché. Et puis, c'est surtout un désaveu pour toutes les agences qui ont accompagné la marque toutes ces années et qui, manifestement, n'ont toujours pas réussi à faire de Candia une marque.
C'est un peu une campagne maladroite, alors ?
Alors, c'est assez maladroit, effectivement, ouais. Parce que, déjà, en plus de ce qu'on vient de dire, on s'aperçoit que sur ce marché, il y a, contrairement à ce qu'on a entendu, plusieurs marques. Il y a même beaucoup de marques. Il y a les marques de grande distribution, il y a les grandes marques. Il y a une multitude de marques locales. Il y a les marques responsables. Il y a plein de marques. Donc le problème n'est pas qu'il n'y avait pas de marques. Le problème est peut-être plutôt qu'il y en a trop. L'autre problème aussi, c'est que le lait, c'est un produit qui est un produit brut. C'est presque une matière première. Donc c'est un produit qui n'a pas de caractéristiques différenciantes, que ce soit sur le plan organoleptique ou sur le plan diététique. Ça, c'est une chose. Et puis le dernier point, c'est qu'à l'exception d'une publicité comme il y a eu la publicité Lactel, papa c'est quoi cette bouteille de lait, ou les quelques prises de parole qu'on a pu connaître des produits laitiers, vous savez, nos amis pour la vie, c'est un secteur ou un produit qui n'a pas souvent communiquer. Et lorsqu'il communique, finalement, il va communiquer sur quoi? Sur un prix au litre, il va communiquer sur une vache, il va communiquer sur des prairies. Avec ça, fais-moi rêver.
Ouais. Il y a quand même un peu de bon dans cette campagne, c'est comme dans le lait, quoi.
Oui, effectivement, ça veut dire déjà le lait est bon, effectivement. Non, ce qui est intéressant, c'est que Candia, quand même, propose maintenant, comme elle le dit dans sa pub, un lait de pâturage provenant d'animaux bien traités et nourris sans OGM et qui offre, je le dis, une meilleure rémunération à ses éleveurs. Donc c'est bien. Au passage, quand même, on apprend quand même quelque chose de nouveau aussi, c'est qu'il y aurait donc des soupçons de maltraitance animale dans les laiteries et pas uniquement dans les abattoirs. Voilà. Bon, la bonne nouvelle en tout cas, c'est que Candia se met à partir de maintenant, si on comprend bien, à bien traiter les animaux et à mieux rémunérer ses éleveurs. Ça, c'est bien. C'est en fait ce que les consommateurs demandent depuis des années. Hein. Et puis c'est aussi ce que pas mal de marques locales et même des marques distributeurs, ce qui est quand même un comble, font déjà elles aussi depuis quelques années. Donc on aurait aimé en fait que Candia, leader du secteur, soit le premier à agir de la sorte. On se consolera en se disant que finalement mieux vaut tard que jamais.
Merci Valérie Potin. Et on poursuit notre petite consultation autour du thème qu'est-ce que la pub en 2018 avec Damien Fauy, directeur de la création chez Derwin.
La pub en 2018, c'est venir toucher les consommateurs, c'est venir leur apporter un message, venir leur apporter un produit et une expérience qui vient enrichir leur quotidien. Donc surtout pas interrompre ce qu'ils sont en train de faire, mais bien évidemment leur raconter une histoire, les faire voyager, leur créer une émotion, susciter en fait de la discussion et créer une envie. Et pour moi, la pub aujourd'hui, c'est ça.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.
Et nous sommes maintenant avec Tashi Baroucha, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la création chez Clear Channel. C'est quoi votre job? Parce que Clear Channel et création, je vois pas bien.
Ah, effectivement. Alors, en fait, j'ai été recruté par Clear Channel en 2011, au moment où ils étaient sur le point de déployer leur réseau d'affichage digital. Donc, en gros, une régie publicitaire d'affichage outdoor. Avec un directeur de création, ça paraît étonnant, mais effectivement, moi, j'avais un background un petit peu éclectique et multimédia, qui fait que tout d'un coup ils avaient un truc entre les mains dont ils savaient pas trop quoi faire, parce que c'était connecté, que c'était des images en mouvement, que c'était quelque chose de totalement nouveau pour eux, et qu'il a fallu à quelqu'un pour les accompagner un petit peu là-dedans, quoi.
Et accompagner les clients, parce que c'est vrai que le digital sur des affiches, ça a été au début un petit peu décevant. Vous avez mis un petit peu de temps pour y arriver.
Ouais.
Et là, en fait, si vous êtes là, c'est parce que vous venez de faire une association avec Brut à Rennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est?
Alors, ça c'est assez fondateur pour nous. Effectivement, ça a pris du temps. Je suis arrivé en 2011 et c'est vrai qu'une de mes obsessions, c'était comment on fait pour mettre autre chose que de la publicité sur ces écrans. Parce qu'il y avait une certitude chez moi qu'il fallait transformer la perception des mobiliers et aussi de notre activité médiatique et diffuser autre chose que simplement ce soit pas simplement des supports publicitaires, mais bien plus que ça. Et aujourd'hui, c'est le cas avec un partenariat qu'on vient de signer avec Brut, qui va dépasser évidemment ce qui se passe à Rennes, parce que Rennes est la première pierre, mais que voilà, nous on a signé, Clear Channel a signé avec Brut pour travailler sur des choses qui vont être aussi parfois à caractère publicitaire, un peu de billboarding, mais en tout cas voilà, c'est du contenu éditorial sur des écrans qui étaient à vocation publicitaire.
Qu'est-ce qu'on peut voir concrètement sur vos écrans alors à Rennes ?
Alors à Rennes, on a 50% du temps qui va être dédié à la publicité et les 50 autres pourcents sont partagés entre des informations qui concernent la ville et des contenus bruts qui sont tournés spécifiquement dans la ville, donc c'est très local, ça parle de la ville. Et ça parle de la ville aux gens qui vivent la ville. Donc c'est vraiment très intéressant. Les gens, ce qui est intéressant, c'est que nos contenus bruts, alors que la publicité dure 10 secondes, parce que 10 secondes c'est le temps qu'il faut pour voir une publicité en mouvement, les sujets que font Brut pour la ville font 30 secondes
et les gens s'arrêtent. 30 secondes le sujet ?
Ouais. Ils font 30 secondes.
Et on a le temps de raconter des trucs
assez...
en 30 secondes?
C'est beaucoup plus, c'est à peu près la moitié de ce qu'ils font sur Facebook.
Ouais.
Mais oui, on arrive très bien à raconter une histoire sur les ruches qui ont été posées sur les commissariats de la ville, sur les initiatives qui sont prises pour pas gaspiller dans les cantines. Et ça tient en 30 secondes. Et les gens, en plus, s'arrêtent pour regarder ça parce que ça les concerne directement et c'est assez étonnant de voir ça.
Et d'accord, on est d'accord que ça se passe dans les endroits piétonniers, puisqu'il y a
absolument
pas de risque pour les automobilistes.
On a un parti pris chez Claire Chanel, qui est vraiment simplement des centres-villes piétons. On a 50 écrans double face dans la ville qui sont placés dans des endroits qui sont piétons. Ouais.
Et du coup, c'est de la pub, c'est pas de la pub. Comment est-ce que vous le voyez ?
Eh ben, c'est autre chose que de la pub. En tout cas, en fait, on bascule tout d'un coup, et c'est ça qui est passionnant, vers quelque chose qui est. On s'adresse plus à des consommateurs, on s'adresse à une audience, à un public finalement, puisqu'on leur propose de autre chose que de la publicité. Et ça, ça change tout pour nous, ça change tout pour les annonceurs, parce que leur publicité s'inscrit dans des boucles. Qui sont des boucles avec une valeur voilà vraiment éditoriale, et c'est voilà c'est vraiment le début de quelque chose d'intéressant.
Mais quand vous êtes allé voir la mairie de Rennes avec cette idée là, ils vous ont pris pour des dingues, ou ils ont réagi comment au premier abord?
Ils nous ont pris en tout cas ils ont été très agréablement surpris, parce que au départ ils avaient très peur de ces écrans. Parce que ces écrans, surtout une ville comme Rennes qui est assez militante, très 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 écolo, et avec une population qui s'exprime de façon assez virulente quand il faut, ils avaient peur de l'intrusion de ces écrans qui pour eux allaient diffuser que de la publicité. Et le fait qu'on soit arrivé en disant mais voilà, il y a brut, on va faire autre chose que ce que vous imaginez. Bah, ça a déclenché déjà beaucoup de choses avec eux, et aujourd'hui on est dans un partenariat absolument délicieux.
Donc, mais ça coûte, j'imagine, plus cher, parce que c'est de la production de contenu pour le coup.
Ouais.
C'est moins rentable que si vous mettiez de la pub H24. Comment est-ce que vous rentabilisez ce truc-là ?
Alors malheureusement, je ne sais pas parler d'argent. Donc je suis pas du tout le bon interlocuteur pour ça. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on s'y retrouve. Et si je dois parler, moi, avec mon regard créatif, je pense que cette valeur-là n'a pas de prix. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous coûte de l'argent, mais qui va derrière dérouler un boulevard qui forcément sera profitable, parce que je pense que sinon on l'aurait pas fait.
Un panneau publicitaire aujourd'hui, c'est un média comme un autre ?
Alors moi, pour moi, un panneau publicitaire, ça a jamais été un média comme un autre. En tant que créatif de pub, ça a toujours été la forme la plus noble et la plus directe et la plus immédiate et la plus créative. Donc ça, on peut en faire évidemment le meilleur comme le pire. Mais l'affiche, même papier, c'est pour moi une forme qui est tellement pure que non, ça a jamais vraiment été un média comme les autres.
Merci beaucoup Tachi Baroucha, je rappelle que vous êtes directeur de la création chez Clear Chanel. On reprend notre petite consultation autour de qu'est-ce que la publicité en 2018 avec Sandrine Placereau, présidente et fondatrice de We Are Social France.
2018, c'est une année assez étrange dans la publicité. Une année où les Cannes Lions se sont fait challenger, une année où on a un Martin Sorel qui quitte WPP, mais aussi Facebook qui vit sa crise Cambridge Analytica. Donc c'est une année où on attendait beaucoup de renouveau. Et pourtant, force est de constater à la fin des Cannes Lions, ou quasi la fin des Cannes Lions, que finalement on en est encore à primer des campagnes qui font plaisir au marché. Voilà, on reste sur une année très très classique alors qu'on attendait beaucoup de renouveau.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.
Et notre dernier invité cette semaine, Frédéric, c'est Bastien Schupp. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président Global Brand Strategy et Marketing chez Renault. Pour un annonceur comme Renault, c'est quoi Cannes ?
En fait, Cannes, c'est un rendez-vous important pour nous, un rendez-vous annuel, qui est à la fois une source d'inspiration, mais surtout, j'allais dire malheureusement, aussi une série de grandes réunions importantes avec nos partenaires principaux. Donc finalement, on passe toute la semaine quasiment dans les salles de réunion à faire des deals pour l'année qui suit.
L'occasion aussi de voir si vos agences elles travaillent bien ou...
Absolument. C'est évidemment le festival de la création, donc aussi la possibilité de se comparer aussi à ce que font les autres.
Là, le paradoxe, c'est que pour une fois, l'annonceur est là, mais votre agence... Votre grande agence Publicis, c'est pas là. Alors, comment est-ce que vous la remplacez en quelque sorte ?
Mais ça montre assez bien comment le festival a évolué ces 4-5 dernières années. C'est vraiment transformé d'un festival qui à la base était un vrai festival de création en un festival qui est finalement plutôt un grand meeting média publicité. Et donc, on essaye de tenir le drapeau Renault même sans notre agence cette année.
Justement, vous avez intégré une partie de la création chez Renault. Pourquoi l'agence, elle faisait pas bien son boulot ou...
Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas vraiment. On n'a pas vraiment intégré la création. On a créé une agence à part, une sorte d'agence à part, qui intègre pour moitié des créatifs de Publicis et pour l'autre moitié des freelances qui viennent de toutes sortes de domaines. Ça peut être des architectes, des designers, des artistes. C'était pour sortir de la manière traditionnelle de faire de la publicité et pour tester aussi des nouveaux systèmes. Donc, c'est essentiellement pour créer des petits contenus éphémères pour les réseaux sociaux. Qu'on pouvait pas produire et créer de la manière traditionnelle, lourde, qu'on faisait d'habitude.
Vous avez fait ça à partir de quand ?
Ça fait un an et demi maintenant qu'on fait ça. Ça s'appelle la Content Factory chez nous. Ça a commencé dans un loft et puis maintenant c'est à Bastille, dans des bureaux. Ça se passe très bien finalement. On est très contents et d'ailleurs, on va s'inspirer de cette méthode beaucoup plus agile où on a différents talents plus nos équipes intégrées pour essayer de transformer les agences que nous avons pour créer un modèle beaucoup plus agile, intégré, qui travaille par des sprints créatifs plutôt que de la manière traditionnelle de faire.
Il y a eu un changement de méthode qui est intervenu là sur ce que vous me dites.
Absolument. Donc la manière traditionnelle de faire la publicité, c'est que l'annonceur brief l'agence en disant voilà ce qu'il nous faut, ils reviennent au bout de 2 semaines, ils disent voilà la campagne, on leur dit ça va pas, ils repartent, ils reviennent.
Ça permet à l'annonceur de mieux intégrer la culture de l'entreprise aussi ?
Absolument. Je pense que ça fait surtout gagner du temps et ça fait gagner en efficacité et en qualité aussi parce que comme on fait partie du processus, dès le début, ça permet de diriger la création dans la bonne direction et d'éviter de faire perdre du temps à tout le monde et de frustrer les agences.
Est-ce que c'est de nature à redonner à la pub automobile un peu de son lustre ? Ici à Cannes, pendant des années, les films auto, les catégories auto étaient spectaculaires, primées pratiquement tous les ans, etc. C'est plus vraiment le cas, c'est devenu un petit peu plus banal. Est-ce que ces nouvelles formes-là peuvent redonner un peu de peps à la créativité?
On l'espère.
Ouais.
On l'espère absolument. Ouais. En fait, ce qui est difficile, c'est que la méthode traditionnelle de faire de la publicité n'existe plus vraiment. Les formats changent tout le temps, les nouveaux réseaux sociaux. On passe vraiment d'un modèle où il fallait être disruptif pour attirer l'attention à un modèle où il faut commencer à être beaucoup plus inclusif pour essayer de s'intégrer dans la conversation. Quand vous entrez finalement dans une conversation sur les réseaux sociaux, si vous êtes très disruptif, vous allez avoir un rejet de la part du consommateur. Donc nous essayons de tirer la publicité et la création vers le haut grâce à ces méthodes.
On parle beaucoup de la voiture autonome, évidemment. Vous parliez vous-même ici à Cannes, je crois, de l'avenir de l'automobile. Est-ce que la voiture, demain, ça va être un média ? Parce qu'une fois qu'on n'a plus besoin de conduire, finalement, l'interface peut complètement changer.
Absolument. Mon intervention qui a eu lieu ici, a eu lieu avec un collègue qui, lui, travaille dans notre centre d'innovation dans la Silicon Valley, le centre d'innovation de l'Alliance. Et en fait, ça partait du postulat que la plupart des constructeurs montrent la voiture comme une extension soit du bureau, soit de votre domicile. Et finalement, on oublie complètement le spectacle de la route. Et donc, nous sommes absolument persuadés, nous travaillons sur des solutions pour créer des expériences multisensorielles dans les voitures autonomes où vous avez un mélange entre la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la route, le son. Vous êtes vraiment dans un cocon qui vous permet de créer des expériences très spéciales. Et peut-être juste un exemple, nous avons un concept car qui s'appelle Symbiose, où nous avons invité des journalistes pour l'essayer. Ça roule de manière totalement autonome sur l'autoroute à 130, ça passe même les péages. Mais en fait, l'expérience que je trouve vraiment intéressante là-dedans, pour vous illustrer justement comment ça va devenir un média, c'est une expérience que nous avons fait avec Ubisoft. Vous mettez dans la voiture autonome, vous mettez un masque de réalité virtuelle, vous voyez quand même la route devant vous, donc vous voyez le camion, vous voyez la voiture quand vous enlevez le masque. Mais quand moi je l'ai essayé il y a un mois, il pleuvait, je mets le masque, je suis en plein soleil, je vois une éclipse du soleil, je me retrouve en plein New York, je me retrouve dans la forêt et tout d'un coup la voiture décolle, elle s'envole au-dessus des collines et comme la voiture bouge, vous êtes au sein d'une expérience absolument spectaculaire et ça donne une idée de ce qui va pouvoir être possible dans l'avenir.
Merci beaucoup Bastien Schupp, je rappelle que vous êtes vice-président global brand stratégie et marketing de Renault. Tout de suite, qu'est-ce que la pub en 2018 avec Laurent Nguyen, directeur de la création de Babel.
C'est la transgression, c'est cette capacité, cette envie, cette fascination de passer d'un vieux modèle à un nouveau modèle, et ça sera aussi la pub de 2019.
Voilà, Hebdo.com à Cannes, c'est terminé. Merci beaucoup à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, de m'avoir accompagné à nouveau sur cette émission. Hebdo.com marque une pause, c'est l'été. On se retrouve bien sûr à la rentrée pour toujours plus d'informations autour de la com et de la pub. À très vite sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.